Pauline Pucciano. Titania 2.0. Dans les pâles halos de soleil numérique, je cherche l'invisible en qui le ciel s'écoule. Je vois le monstre humain qui vaguement s'enroule autour de son absence en anneaux concentriques. Ma douleur étranglée, oublier se morfond en un repli de l'âme aux profondeurs internes, et je porte au dehors un sourire si terne que mon cœur transparent au réseau se confond. Jean effaça le mot transparent qu'il remplaça par transpercé et se relut. Ma douleur étranglée, oubliée, se morfond en un repli de l'âme aux profondeurs internes, et je porte au dehors un sourire si terne que mon cœur transpercé au réseau se confond. « Moi, je préfère transparent, » dit une voix inattendue derrière lui. Jean sursauta. Il débrancha son RV et ouvrit les yeux sur le monde réel. Il était toujours à la même place, depuis plus de 3 heures, assis sur le rebord de la fontaine serpentine, en face de l'identitemple. La même foule bariolée et hétéroclite se pressait à l'entrée et à la sortie. Il mettait toujours quelques fractions de seconde à réintégrer le monde réel. Il s'oublia un instant de trop à observer la foule, et la voix le rappela à l'ordre. « Vous vous faites vieux, remarqua-t-elle. Vous mettez un temps infini à retomber dans vos baskets. » Il se retourna vivement, avec irritation. La créature qui lui parlait ne paraissait pas avoir plus d'une 20aine d'années, peut-être 15, peut-être 50, qui pouvait le dire. L'âge restait une manière de décrire les gens, comme la longueur des cheveux ou leur couleur de peau. Cela pouvait changer d'un jour à l'autre, mais il fallait bien se raccrocher à quelque chose. Elle était très « art », comme on disait, ce qui signifiait plus ou moins qu'elle était un produit artistique sophistiqué et harmonieux. Il ne prêta pas attention aux détails, mais la vision d'ensemble lui plut. Une vapeur de cheveux blancs, de grands yeux bleus, une bouche de poupée, de la soie. « Quel âge avez-vous » demanda-t-elle avec une moue exagérée. « 200 ans ?»« Mais de quoi vous mêlez-vous » finit-il par demander. « Vous êtes bizarre, dit-elle, et j'aime tout ce qui est bizarre. « Pourquoi donc me trouvez-vous bizarre? Vous n'êtes pas modifié. » « Et alors ? C'est bizarre. Et d'abord, comment savez-vous que je ne le suis pas ?» Elle prit une inspiration et changea d'expression, devenant soudain sérieuse, comme si le sujet était son domaine de prédilection et de compétence. « Voyez-vous, les gens qui se modifient mal, comme 99% des gens que vous voyez autour de vous, n'ont aucune unité. Ils sont un assemblage pathétique d'éléments disparates. Ils ne ressemblent à rien. Les gens qui se modifient correctement parviennent à se donner cette unité. C'est ceux qu'on qualifie de « art ». Mais vous, vous n'êtes ni « art » ni modifié. Vous avez l'unité que vous a donnée la nature. Ça se voit tout de suite. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas « art » dans le style naturel ? Vous pourriez. Mais... Mais qui aurait choisi ce petit bouton poilu sous votre menton? Et la très légère asymétrie de vos yeux? Qui aurait opté pour cette petite rougeur sur l'aile droite du nez? Je ne sais pas, moi. Il chercha des yeux autour d'eux, un spécimen assez atypique pour servir son discours. Une jolie jeune femme, dotée d'une paire d'ailes de libellules vibrantes et transparentes, bavardait avec une autre, entièrement recouverte d'un pelage tigré. Qui opterait pour une peau de tigre? Demanda Jean. Vous n'avez pas choisi tous ces petits détails. Vous les avez reçus à la grande loterie et vous avez juste décidé de les garder. D'accord, vous marquez un point, Miss Art. Titania. La reine des fées de Shakespeare, hein? Je le porte depuis 2 ans. Il ne vous plaît pas? Il vous va bien, dit-il. Et vous?
Jean.
Juste Jean.
Oui,
et celui-là, ce n'est pas la nature qui me l'a donné. C'est ma mère.
Oh!
Jean repensa brusquement à son poème et à l'intrusion de cette indiscrète petite personne. Vous savez qu'il est très malpoli d'intervenir dans les activités d'un inconnu?
Vous savez qu'il est très imprudent d'écrire des chansons dans un lieu où le réseau est totalement ouvert? C'est comme si vous l'écriviez au mur.
Ce n'est pas une chanson.
Alors c'est quoi? Un poème? Ça fait 200 ans qu'on n'écrit plus de poèmes en alexandrin.
Mais moi je suis bizarre et naturelle. Et j'ai gardé le prénom que m'a donné ma mère,
et vous m'avez donné 200 ans. Tout correspond. » Elle se tut un instant et le considéra avec attention. Il ne put s'empêcher de remarquer d'autres détails. Ses ongles de nacre, sa peau légèrement saupoudrée de paillettes infimes, son cou laiteux et velouté, caressé par des plumes. Dans les pâles halos de soleil numérique, je cherche l'invisible en qui le ciel s'écoule. Je vois le monstre humain qui vaguement s'enroule autour de son absence en anneaux concentriques. « C'est beau, » dit-elle. Elle allait ajouter quelque chose, mais son Hervé, entièrement personnalisé et recouvert pour partie d'écailles et pour partie d'une sorte de coquillage, se mit à émettre un son grave, comme celui d'une antique flûte de Pan. « J'aimerais vous revoir, Jean, » dit-elle. « Je reviendrai demain. » Elle lui adressa un petit sourire incertain, puis brancha son Hervé sur ses oreilles et s'éloigna dans la foule. Il la suivit des yeux jusqu'à sa disparition, puis hésita un moment à se connecter. Finalement, il décida de se laisser simplement aller au spectacle permanent de la cohue. « Regarde le monde !» répétait sa mère. « Tous les jours, regarde le monde d'un œil neuf !» Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et les rouvrit lentement après avoir compté 3 coups, comme si ses paupières étaient un rideau de théâtre. Puis il se dirigea vers l'identitemple, qui ouvrait, à quelques mètres de lui, les gigantesques portes de ses entrailles babyloniennes. Il ne s'agissait pas d'un temple à proprement parler. Il y avait bien longtemps que les religions instituées avaient été désertées, mais d'une légendaire galerie commerciale où l'on vendait absolument tous les articles et services consacrés à la création personnelle. À l'étage de l'entrée principale, comme l'indiquait l'un des innombrables plans qui défilaient sur toutes les surfaces verticales du complexe, on vendait des vêtements rares et carnavalesques, en fourrure, en plumes, en écailles, en dentelle, en plastique, en métal, en synthétique, des vêtements automatiques qui effectuaient des mouvements, des vêtements lumineux, des vêtements parfumés, des vêtements interactifs avec des parties parlantes, des vêtements d'autres époques, d'autres lieux, des vêtements délirants sortis de l'imagination de stylistes psychotiques, des vêtements de torture, des vêtements licencieux, des vêtements de nains, de géants. Aux étages immédiatement inférieurs et supérieurs, on trouvait les accessoires. Des couvre-ailes, des cache-queues, des couvre-chefs troués pour les cornes, des ongles, des cheveux, des lentilles, des bijoux pour toutes les parties du corps, pour les lèvres, les épaules, les doigts, le sexe, la langue, les narines, des bijoux vivants composés de scarabées ou d'araignées parasites, énormes et colorés, des bijoux comestibles, des bijoux stupéfiants, des bijoux fumants, liquides, odorants, des onguents pour colorer la peau, la rajeunir, la vieillir, la tanner, la huiler, la parfumer, la durcir et la transformer en carapace, des fixations de toutes tailles et de toutes sortes, des poches de poignets, des étuis pour Hervé. Au 4e étage, qu'on appelait la pharmacie, se vendaient des pilules d'une infinie variété de formes, de couleurs et de fonctions. Des pilules pour changer l'humeur, pour modifier le métabolisme, pour doper, pour contrôler ses heures de sommeil, pour assouplir les articulations, pour bloquer la sudation, pour déclencher des larmes perpétuelles. Et puis, dans les étages supérieurs, se vendaient des services particulièrement onéreux. Les tatoueurs et autres coiffeurs, coloristes, pelistes, puis, aux étages suivants, les services chirurgicaux permettant de mettre et de retirer une multitude d'implants. Membres supplémentaires, cornes, chevelures et pelages, ailes, queues, bijoux biologiques, dents, griffes. Enfin, la chirurgie esthétique, de la plus basique à la plus spectaculaire, qui vous permettait de perdre 10 ans, de changer de nez, d'oreille, de menton, de dents, d'étirer les os des jambes, de perdre des kilos de graisse, de changer de sexe. Dans les étages inférieurs, surnommés l'enfer, s'étalait toute une babylonienne industrie liée au sexe. Jouets sexuels de toutes sortes, pour toutes les orientations imaginables, implants d'organes érogènes supplémentaires, pharmacopées aphrodisiaques. Plus bas encore, les couloirs de la mort, où l'on trouvait des armes à perte de vue, et surtout des armes implantées, lames de rasoir et griffes rétractiles, crocs à venin, armes de jet miniaturisées dans les avant-bras, rayons aveuglants, doigts électrisants, lance-flammes intégrées. L'imagination humaine, en enfer, n'avait aucune limite. Et, à tous les étages, la même foule, dense, compacte, chamarrée, protéiforme. Jean oscillait entre fascination et répulsion. Mais il suspendait son jugement, le réservant pour plus tard, pour une heure d'intimité propice à l'exercice de la pensée. Il était venu pour se remplir les yeux du monde, et il n'en perdait pas une miette. Quand tout l'étonnement dont il était capable fut consommé, et qu'il commença à déambuler sans curiosité, il décida de partir. Il rentra chez lui directement, en passant par la ruelle des sans-avenir. Il dut enjamber des hors-réseaux qui dormaient à terre. L'un d'entre eux s'agita à son passage. « Hé, Jean !»« Qu'est-ce qu'il y a, Mito ? T'aurais pas quelque chose à bouffer ?»« Là, sur moi, non, désolé. Tu peux pas m'acheter un bol de nouilles, Jean ?» Jean soupira. Les HR n'avaient plus d'identité informatique. Et sans II, ils n'avaient plus aucune existence légale. Ils ne pouvaient ni travailler, ni voyager, ni louer, ni recevoir ou payer avec des crédits. Être en dehors du monde virtuel, c'était être à la marge du monde réel. Il n'y avait rien à faire contre ça. Si tu veux... Le HR se leva avec difficulté. Tu n'as pas pu faire soigner ta jambe? Le toubib m'a dit que j'avais pas de numéro. Et il ne t'a rien donné? Non, Jean, tout le monde n'est pas le bon samaritain comme toi. Si tu le dis. Ils se dirigèrent d'un commun accord vers le stand de restauration chinoise, tenu par un couple de vieillards dont l'origine ethnique était noyée dans des générations de métissage. La vieille Xia cuisinait et se tenait toujours devant son wok géant. Le vieux prétendait s'appeler Cho et il s'occupait des clients. « Deux bols de nouilles ? » proposa-t-il d'une voix fatiguée. « S'il te plaît, Cho. À quand la retraite ?» plaisanta Mito. Ils rirent tous les trois dans la fraîcheur grandissante de la nuit. La retraite avait été abrogée plus de 40 ans auparavant. Cho et Xia, si tels étaient bien leurs noms, mourraient devant leur wok en servant des bols de nouilles. Mito payait toujours son bol de sa bonne humeur. Rien ne pouvait l'empêcher de se réjouir de l'imminence d'un repas chaud. C'était la triste contrepartie d'une vie de privation. Jean, lui, ne se réjouissait plus de grand-chose. « Quand tu seras trop fatigué, vieux, » dit Mito. « Demande-moi mon aide, tu me payeras avec des bols de nouilles. » Cho regarda Mito avec méfiance. « Je ne veux pas d'ennui, moi. »« Personne ne veut d'ennui, Cho, » dit Jean. « Ça manque de sel, » remarqua Mito. « La vie manque de sel, » poursuivit Jean. « Je t'ai promis qu'un jour je te raconterai comment je suis devenu HR. »« Pas ce soir, Mito, pas ce soir, » dis-je. « J'ai froid et je suis fatigué. » Mito ne se vexa pas et retourna s'asseoir dans la rue à côté des autres silhouettes immobiles. « Je te revaudrai ça, Jean, » cria-t-il de loin. « T'inquiète, c'est sur ton ardoise. » Jean ne termina pas son bol et fit machinalement passer son Hervé devant celui de Chaud. Un petit bip imperceptible scella la transaction et il salua silencieusement le vieux qui, lui semblait-il, commençait à donner des signes de sénilité. Sa main gauche était agitée de tremblements involontaires et son œil se figeait, parfois, comme une gelée froide. L'immeuble de Jean était aseptisé et d'une neutralité désespérante. Il ne rencontra personne en prenant l'ascenseur, qui monta les 13 étages sans un bruit. Son Hervé vibra à peine lorsque la clé électronique qu'il contenait procéda automatiquement à l'ouverture de la serrure. Enfin, il était chez lui. 40 mètres carrés privatifs, qui représentait une surface personnelle légèrement au-dessus de la moyenne. L'appartement, comme un automate qui sortait de l'ombre pour exécuter son numéro, s'alluma, bourdonna, s'auto-modifia, sans qu'il eût rien à faire. Les lumières, les volets, les portes, les radiateurs, la musique d'ambiance, tout s'était déclenché, à l'instant même où le Hervé avait déverrouillé la serrure. Jean retira ses chaussures et s'installa dans le salon de vision. Il brancha son Hervé sur l'écran 3D, et consulta le menu qui défilait, lumineux et impalpable comme un fantôme, à 1 mètre de son canapé. Le Hervé pouvait se brancher sur écran traditionnel, sur écran 3D, en audio uniquement ou en immersion virtuelle, avec un casque qui donnait des maux de tête et parfois des vomissements au bout de quelques heures. L'écran 3D était ce que préférait Jean. On n'était pas physiquement relié à quoi que ce soit, et tout paraissait facile et fluide, sans douleur. Le réseau contenait presque tout ce à quoi Jean tenait, et son appartement, en fait, était vide et presque impersonnel. Jean pensait à sa mère ce soir. Il y avait des soirs comme celui-ci, où elle lui manquait particulièrement. Elle était morte depuis 2 mois. Sa rémanence dans le réseau était assez bien réussie. Il pouvait converser avec elle, sous forme de personne virtuelle à son effigie, sur des sujets familiers, presque comme si elle était encore là. Elle lui répondait avec les mots qu'elle avait l'habitude d'employer, souriait avec son sourire, affichait des idées qui lui étaient propres. Mais c'était une illusion, il le savait. Il préférait encore s'immerger dans ses souvenirs 3D. Il choisit celui qu'ils avaient créé ensemble pour son 12e anniversaire. Il brancha le casque d'immersion virtuelle pour que la plongée soit complète. Il fut alors à même de tout éprouver. Les parfums du jasmin, le bruit de la cascade et des oiseaux, le souffle du vent tiède. Le souvenir était long, il durait plus d'une minute. Sa mère lui tenait la main et il pouvait sentir ses doigts noueux dans les siens. Elle le regardait et lui souriait, puis elle disait « N'est-ce pas un moment parfait, Jean ?» Il lui lâchait la main et se mettait à courir dans le parc. Il pouvait sentir son accélération cardiaque et la sensation de la jeunesse qui débordait de ses veines. Puis le souvenir prenait fin. Les bruits, les parfums, les sensations corporelles s'arrêtaient nettes, comme une lumière qu'on éteint. Il ressentit une vague nausée et coupa l'immersion virtuelle. Il regarda ses messages personnels, professionnels, publicitaires, d'un œil distrait. Il ouvrit le fichier de ses poèmes, lança une recherche sur Titania, puis son esprit, occupé à plusieurs tâches, se focalisa sur l'icône à l'effigie de sa mère. Il l'activa, presque sans y penser. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda la voix de sa mère, parfaitement synthétisée. « J'ai rencontré une drôle de fille pendant que j'écrivais. »« Quel genre de fille ?»« Le genre qui t'amuserait, je crois. Totalement modifiée, mais vivante, inattendue. »« Comment s'appelle-t-elle »« Titania. » La reine des fées de Shakespeare, c'est ce que je lui ai fait remarquer. As-tu écrit un poème sur elle ? Il savait que s'il ne changeait pas lui-même de sujet, la rémanence poserait des questions sur le même sujet jusqu'à épuisement. Il n'en avait pas envie. Que penses-tu de l'identitemple ? Demanda-t-il pour changer de sujet. L'intelligence artificielle eut un petit délai avant de répondre. C'est sans doute le lieu le plus corrupteur de toute la capitale. Quoi de plus séduisant que de se créer soi-même, être à la fois Pygmalion et Galatée, Dieu et Adam, et pourtant, sans arriver à bien dire pourquoi, je pense que c'est mal. C'est une mode, maman, rien de plus. Une mode qui prend une proportion inquiétante, Jean. Les gens se recentrent sur eux. Il coupa la fausse conversation, vidé et un peu honteux d'avoir prononcé le mot « maman ». Combien de personnes dans l'immeuble étaient en ce moment même en train de parler tout seuls ? À des psys virtuels, des prostituées virtuelles, des morts virtuelles. Il aurait mieux fait d'écouter l'histoire de Mytho, même si ces histoires n'étaient jamais vraies.